France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une année splendide. Que 2025 soit une année qui requinque. Et ce, grâce à des initiatives réjouissantes partout en France. L'intelligence collective, l'énergie citoyenne pour ne pas être assommée par l'actu, parfois anxiogène. C'est un peu le principe de cette émission. On va continuer en 2025, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes à Bourges et à Rennes. Et mes invités ont tous les deux des mains exceptionnelle. L'une parce qu'elle est chef d'orchestre, l'autre parce que sa main est bionique. Nicolas Huchet, amputé d'une main, a créé une association pour que les personnes en situation de handicap participent eux-mêmes à la fabrication des prothèses et des outils dont ils ont besoin. Haut les mains, soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Une chef d'orchestre engagée et de retour dans les carnets. Bonjour Claire Gibault.
Bonjour Dorothée Barba.
Toute cette semaine, je prends des nouvelles des invités qui nous ont marqués au cours de l'année 2024 et vous en faites partie.
Très honorée.
Évidemment, vous dirigez le PMO, le Paris Mozart Orchestra, qui est un orchestre en mouvement, installé notamment à Bourges, dans le Cher. Vous êtes aussi la créatrice de la Maestra, qui est un concours pour femmes chefs d'orchestre. Vous étiez mon invitée en mars 2024, Claire Gibault, et nous avions parler d'un projet singulier qui mélange la musique et la santé mentale. Où en êtes-vous de ce projet aujourd'hui ?
C'est vraiment le projet qui nous passionne, qui nous motive tous. On nous a proposé un lieu à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique Georges Sand de Bourges, un bâtiment désaffecté du 19e siècle où on envoyait les Parisiens comme dans un sénatorium parce que c'est au milieu des châtaigniers et des tilleuls. Et on est en train de construire notre résidence artistique pour déstigmatiser les patients qui sont là pour des problèmes de santé mentale. Et on travaille avec la merveilleuse directrice de cet hôpital, qui est Marie Rouxlati, sur des thérapies différentes, alliant la culture justement aux autres thérapies, et peut-être même l'équithérapie.
Alors on imagine mal comment mélanger ainsi la musique orchestrale et la santé mentale. Quelle forme va prendre précisément ce mélange, Claire Gibault ?
Bien, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas quelque chose qui rend passif les gens qui nous écoutent. Il faut qu'il y ait une participation. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être désocialisé, de s'ennuyer et d'être seul. Donc, des rencontres, aussi bien faire du chant choral, du théâtre, mais aussi de l'orchestre. Il y aura un petit auditorium, il y aura un jardin aussi pour faire des spectacles. Et déjà, nos musiciens vont dans les chambres deux par deux, aussi bien pour les tout petits et jusqu'aux seniors. Et c'est absolument passionnant de voir ce que la musique peut apporter déjà comme détente, mais comme espace de rêve, comme retour sur soi-même et comme apaisement. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'humain qui s'attache à tous nos projets, la solidarité, et qu'on ne peut plus être isolé dans une bulle seulement musicologique ou esthétique. Et je pense qu'il y a toute une génération de musiciens autour de moi qui font se sentent mieux aussi dans cette économie de la culture.
Mais ça ne fait en rien abandonner l'exigence.
Non. Non, c'est la base de tout. Sinon, c'est la débandade.
Exigence toujours. Vous organisez un concours, Claire Gibault, pour que les femmes prennent plus de place dans le beau métier qui est le vôtre. Ça s'appelle la Maestra. Quel souvenir gardez-vous de la dernière édition de la Maestra ?
Le niveau monte et je suis si heureuse que Olivier Mantei, le directeur général de la Philharmonie, se passionne pour ce concours. Et ce qui a été tout nouveau cette fois-ci, on a toujours autant de candidates, autour de 220 candidates de 51 nationalités, mais cette fois-ci, il n'y avait pas seulement les Européennes, les Américaines et les Asiatiques, il y avait des candidates d'Azerbaïdjan, d'Iran, de Palestine, d'Israël, du Maroc, de Tunisie. Ça veut dire que elles se sentent légitimes et qu'on a senti qu'on dépassait, grâce à la musique, à la culture, les conflits géopolitiques. Et que, puisqu'on a eu en finale une Israélienne, une Russe et une Allemande.
Oui.
en demi-finale, il y avait encore une Ukrainienne, une Iranienne, enfin bref, et que toutes ces candidates, parce qu'on en a parlé ensemble, se sont serrées dans les bras. Il y avait une espèce de solidarité, ce n'était pas une compétition les unes contre les autres. Et je me dis que quand la musique peut servir à ça, c'est...
Wow. Et c'est une chef d'orchestre israélienne qui a gagné finalement.
Oui, qui a
finalement.
Gagné le concours. Oui, Bar Avni, vraiment formidable.
N'est-il pas un peu désespérant qu'il y ait encore besoin d'un tel concours, Claire Gibault?
Ah, on n'a pas fini notre combat. Au début du premier concours, on était seulement 4% de femmes programmées dans les grandes institutions culturelles. Après ce troisième concours, on arrive presque à 12%. Mais bon, on ne va pas s'arrêter là.
Il faudra plusieurs vies tout de même pour parvenir à l'égalité.
Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit des mouvements masculinistes se développer. Donc, il faut surveiller que... Voilà. C'est très, très peu, mais on reçoit quand même des petites contestations, des petites injures sur les discriminations que nous faisons à l'égard des hommes.
Bien sûr, c'est tragique. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025, Claire Gibault?
De continuer à faire vivre cet orchestre qui est vraiment une vraie fraternité, qui ne compte pas ses minutes ni ses heures pour aboutir à des concerts d'excellence, et que on continue ce travail en profondeur dans la ruralité du Cher, et qu'on soit aussi, on continue d'être invité sur les grandes scènes internationales, comme le Concertgebouw d'Amsterdam, la Philharmonie de Paris, où nous jouerons le 12 avril prochain. On est toujours invité avec un grand bonheur à la Folle Journée de Nantes, là, fin janvier, et puis à la Maison de la Culture de Bourges, en mai, on a beaucoup, beaucoup de choses. Voilà.
Merci beaucoup, Claire Gibault.
Merci beaucoup, beaucoup à vous.
Directrice du PMO Paris Mozart Orchestra.
Et PMO in Bourges.
Ah, il a changé de nom pour l'occasion.
Oui, pour nous, les tournées européennes qui sont liées à la capitale européenne de la culture, parce qu'il y a beaucoup de projets de tournées.
PMO in Bourges, donc. Merci encore, Claire Gibault. À bientôt.
Merci.
Au revoir. Adagio pour cordes, opus numéro 11 de Samuel Barber, interprété par le Paris Mozart Orchestra. Et l'année démarre ainsi très bien. Vous écoutez les carnets de campagne. Place à présent à une association qui invente, qui fabrique et qui partage des prothèses et des outils techniques pour des personnes en situation de handicap. Elle s'appelle My Human Kit. Elle est à Rennes. La solidarité et l'autonomie sont les moteurs de My Human Kit. Bonjour Nicolas Huchet.
Bonjour Dorothée.
On prend de vos nouvelles. Vous êtes le créateur de cette association. Vous étiez l'invité des carnets de campagne en septembre dernier. Et depuis, vous avez participé à une compétition très importante avec votre prothèse de main, puisque vous êtes amputé d'une main depuis 20 ans. Vous avez participé en équipe au Cibathlon. Quel est le principe?
Alors les Cibathlons, c'est une compétition qui allie robotique et handicap, durant laquelle des équipes constituées de chercheurs, d'ingénieurs et de personnes handicapées proposent donc un pilote, donc c'est-à-dire la personne handicapée. Et moi, donc, j'étais dans la catégorie prothèse de main, et il y avait 10 épreuves à réaliser qui allaient de ranger la vaisselle, à étendre du linge, porter des courses, ranger une table, que des actions qu'on fait avec les mains, et où là, je devais les faire seulement avec la prothèse. Et donc, la prothèse que j'utilisais, c'est la prothèse solidaire, made in France, open source, et c'est une prothèse bioélectrique, donc qui fonctionne avec des capteurs qui sont placés sur mon bras. Et du coup, moi j'ai participé, on était 19 équipes, 11 pays différents, et j'ai fini deuxième.
Et voilà, pas mal la médaille d'argent.
Ouais, c'est bien, ouais.
Alors, la compétition a eu lieu à Zurich. Effectivement, la différence entre votre équipe et les autres, c'est l'open source. Hein. Ça change tout, Nicolas?
Alors, ça change tout, effectivement, puisqu'on est dans une démarche de non-exclusivité du projet. Voilà, donc en partageant ce que l'on fait. Et nous, on voulait prouver, donc en participant à cette compétition, que quand les personnes concernées par le handicap sont impliquées dans la réalisation de leur assistance technique, ça change tout.
C'est vraiment l'un des piliers de l'association My Human Kit que de permettre aux gens de travailler eux-mêmes sur les outils dont ils ont besoin pour les aider au quotidien. Est-ce qu'il y a un projet, un outil dont vous avez envie de nous parler en particulier, Nicolas ?
Il y a un projet qui est très important actuellement avec My Human Kit, c'est tous les projets autour des mobilités douces. Donc c'est de pouvoir électrifier un fauteuil roulant, voire même un vélo, pour des personnes qui ont des difficultés ou qui auraient besoin d'avoir un peu plus d'autonomie. Et j'ai envie de parler de ce projet parce qu'en fait, il rencontre une forte demande à Rennes et dans les alentours. Et c'est des petits dispositifs mécatroniques ou mécaniques qui sont fabriqués à partir de moteurs de vélo électriques, de guidons de vélo, et qui sont mécano-soudés à l'aide aussi de pinces. Donc ensuite, il vient se pincer, se visser sur le fauteuil. Et donc, ça permet de transformer son fauteuil roulant en mobylette et de pouvoir enlever le dispositif. C'est des produits qui existent dans le commerce, qui coûtent 2 000, 3 000 euros et qui forcément sont inaccessibles pour une grande partie des personnes en fauteuil. Et c'est un projet que j'aime bien parce que ça touche autant des personnes qui sont vraiment paraplégiques que d'autres personnes qui font du vélo, qui sont hémiplégiques par exemple, et qui font du vélo, du tricycle, et qui se rendent compte qu'en fait, elles peuvent peut-être faire un peu plus de vélo que les 500 mètres qui les fatiguent d'habitude, quoi.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'année 2025, Nicolas Huchet ?
Alors, pour 2025, moi, j'aimerais bien trouver des nouveaux partenaires pour le projet Bionico, des partenaires financiers, ça peut être des donateurs, des fondations, et puis de rencontrer aussi d'autres personnes amputées et prothésistes qui ont envie de tester ce qu'on fabrique et avoir une parole qui porte un peu plus haut ou un peu plus loin pour pouvoir revendiquer le fait que le handicap, ça peut être une source d'épanouissement. Voilà.
C'est pas évident hein, à assumer ce propos-là. Le handicap peut être une source d'épanouissement.
Déjà, quand on dit peut-être, déjà on l'impose pas, donc c'est un peu moins dur à assumer. Et bien sûr, de toute façon, c'est c'est difficile à assumer, surtout quand on vit dans un monde ou une société où il faut être rapide, il faut être performant, et que le handicap, en général, c'est plutôt l'inverse. Et nous, on revendique ça. On revendique la qualité de vie plutôt que la quantité de ce qu'on fait.
Et vous revendiquez également que le handicap puisse être une source d'apprentissage, hein, le point de départ d'un apprentissage.
Oui, voilà, peut-être qu'avant même de parler d'épanouissement, on peut parler que le handicap est une source d'apprentissage. Et d'apprentissage technique, se fabriquer une prothèse ou une aide technique, mais aussi une source d'apprentissage de soi-même, parce que ça peut permettre de mieux se comprendre et de s'accepter comme on est. Je trouve que c'est un sujet qui apporte plein de choses positives en fait en société.
Association My Human Kit, le siège est à Rennes. Merci beaucoup Nicolas Huchet.
Merci Dorothée.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Je vous souhaite à tous et à toutes une année épatante.